au premier étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pas le son commencé à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête. Fait que j'arrive les lardus avec des mitraillettes et y'a du baston dans la tour. Les mecs, ça va saigner. Pour les mains qui disent, sortez de la bande de rats. C'est un temps pour l'armée si vous arrêtez pas. Allumettes, on va tout faire cramer. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gaz suffocants. On a tous dérouillé, mais maintenant de temps en temps, y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Que fait les mecs, ça va saigner. Allez avec moi. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Y'a du baston dans la tour. Que fait les mecs, ça va saigner.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, vous êtes bien à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel, et en rediffusion un peu partout en France par plein de radios locales qu'on remercie encore une fois. L'Envolée c'est quoi ? L'Envolée c'est une émission qui donne, donc une émission de radio et un journal, qui donne la parole aux prisonniers et à leurs proches afin de relayer toutes les luttes qu'il y a dans tous les lieux d'enfermement. Que ça soit les prisons, les centres de rétention, aussi les locaux de garde à vue et les hôpitaux psy. Donc aujourd'hui, c'est la rentrée, donc il y a une grosse activité cet été. Je sais pas s'il faut chanter des Marseillaises, tout ça, il y a eu des médailles d'or et tout ça, mais donc on va être pas mal. Il y a surtout eu des grosses merdasses de la part de notre gouvernement et encore tout plein de gens qui ont été enfermés. Et donc pour en parler autour de la table, il y a Jade.
Salut.
Il y a Louise.
Salut.
Il y a Jade.
Salut.
Il y a Rose.
Salut.
Et il y a Inès au bocal qui nous assure la technique. Et Sylvia qui est en vacances, mais elle a failli pouvoir appeler, mais pour des problèmes techniques, elle ne va pas pouvoir le faire. Et Serge qui vous salue. Donc, l'envolée, principalement, on relaie la parole des prisonniers et de leurs proches. Et donc, pour ça, vous pouvez nous contacter au 07 53 10 31 95. Donc, ça, c'est le bigot, il n'y a pas les applis sécurisées dessus. Voilà, et puis on rappelle que de toute façon, c'est jamais toujours pleinement sécurisé. Et par contre, vous pouvez aussi nous appeler en direct au 01 40 05 06 10 pendant toute la durée de l'émission, donc jusqu'à 20h30. Aujourd'hui, on a un gros programme d'émission. On a tout d'abord les lettres qu'on a reçues cet été, donc qui parfois datent un peu, mais des gens qui nous ont écrit pas mal depuis un an et tout ça, donc ça permet de suivre les histoires. On va parler de la tôle de Tarbes, voilà, et des équipes de matons violentes de manière un peu plus générale. Et enfin, on terminera sur toute la répression administrative, voilà, qui est un espace qui se développe. Donc voilà, c'est un petit nom tout mimi. Ça s'appelle les MICAS, voilà, mais c'est bien dégueu, voilà, et ça continue à s'étendre pour les gens qui, enfin pour l'extérieur et sans, enfin voilà, on va voir comment. L'État réussit à toujours réprimer, toujours plus. Donc, je ne me souviens plus par quelle lettre on commence.
Avec la lettre de Blanche du 14 août 2024. Bonjour. Bon, je suis au repos car ils ont fermé les ateliers le 26 juillet et logiquement, on devrait reprendre le 22 août. Pas mal d'activités sont en vacances, donc tout va bien. Pour les formations au mois de septembre, c'est mort. Il ne faut pas compter sur une reprise. Niveau travail, c'est très physique. La pauvre, c'est que deux personnes de mon âge se sont fait virer car ils ne faisaient pas leur rendement et pourtant on est payé à l'heure. C'est très dur, on nous met la pression. Les anciens, on n'a pas le même âge que les plus jeunes et on ne peut pas travailler aussi vite. On est plus payé à la pièce, pardon. On est à l'heure, mais malgré cela et le quota, c'est comme si on travaillait à la pièce. Le soir, quand on rentre au travail, on est claqué, ils nous font user la santé, ils s'en mettent plein les poches et nous nada. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt, Blanche. PS, il faut faire venir quelqu'un pour qu'il voit le travail qu'on fait d'esclavage.
Merci beaucoup. J'avoue, je me souviens plus précisément c'est quoi le. Pour moi, c'est la buanderie et
non, la buanderie, c'est Aurélie.
C'est Aurélie, pardon. En tout cas, ce qui est clair, c'est que généralement, en fait, les tâches qui sont à l'intérieur. Enfin, il y a deux manières de travailler en détention. Il y a être oxy d'un côté. Donc, quand t'es oxy, en fait, t'es employé par l'administration pénitentiaire à faire des tâches de merde qui vont de repeindre des cellules, nettoyer les coursives, rapporter la bouffe ou ce genre de trucs. Voilà, et de l'autre côté, il peut y avoir du taf qui est, où c'est des entreprises privées qui vont te payer en dessous du SMIC pour pouvoir... voilà. Et dans laquelle, en fait, donc, pour tous ces trucs-là, il n'y a jamais de droit du travail. Il y a eu Dupond-Moretti qui a fait une réforme disant qu'il y avait l'entrée du droit du travail en détention, alors qu'en fait, ça n'a absolument rien changé. Et là, c'est quand même assez évident que c'est toujours le cas. Et en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, il y a des réformes assez régulièrement sur entre guillemets, droit du travail en détention, parce qu'en fait, il est jamais respecté. Donc, en fait, de temps en temps, ça fait un petit scandale et tout. Et donc, ils se sentent obligés de faire une réforme qui va, en fait, être celle qui va, changer les mots, changer les termes et tout ça, mais en fait, laisser la pratique être toujours la même. Et c'est pour ça que c'est important de rappeler qu'en fait, les prisonniers et les prisonnières, elles ne sont plus payées à la pièce, parce qu'en fait, ça a été le cas pendant extrêmement longtemps. Mais le truc, c'est que quand ils ont décidé de faire le passage, de supprimer le paiement à la pièce, parce que c'était trop indigne, quoi, que c'était quand même, il y avait eu quelques petites avancées sociales à un moment et qu'on ne pouvait plus trop se voiler la face, même si en fait ils n'en ont pas grand chose à péter, ils ont décidé qu'ils allaient payer à l'heure. Mais sauf qu'en fait, pour payer à l'heure, ils ont dit principalement quand il y avait le travail en cellule, pour dire en fait on peut pas vérifier si vous travaillez réellement pendant toutes les heures et tout ça. Donc en fait on va dire que si vous avez fait 25 boîtes de parfum, ça sera comme si vous aviez travaillé une demi-heure, quoi. Donc en fait ils continuent à le faire, mais juste sur ta fiche de paye, en fait, il y a écrit que tu travailles à l'heure. Et puis, tu as le rendement, donc ce qui est quand même un truc complètement délirant, parce qu'en fait, dans le droit du travail et tout ça, à un moment, en fait, on peut te licencier parce que tu n'es pas suffisamment productif, quoi. En tout cas, pas de manière si officielle. Voilà. Mais sauf qu'en détention, vu qu'il n'y a pas le droit du travail, c'est ce qu'on appelle un reclassement, un déclassement, pardon. Et donc, quand tu es déclassé, en fait, tu es licencié, mais sans les droits qu'il peut y avoir. là-dessus. Voilà. L'autre truc aussi, et là c'est ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le travail il est complètement précaire. C'est-à-dire que là, du jour au lendemain, il n'y a plus le truc. Les activités aussi, où en fait souvent tu es rémunéré, parce qu'en fait c'est considéré comme étant de la formation. Et donc si les activités de formation et tout ça, elles s'arrêtent, tu arrêtes d'être rémunéré aussi à ce moment-là. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment ce que désirerait le patronat avoir à l'extérieur. Et quand même, il y a eu un historique de lutte qui fait qu'on a quand même préservé un certain nombre de droits. Et là, en fait, donc eux, pour eux, c'est vraiment du pain béni. Et l'autre truc sur lequel je voulais... Voilà, l'argument souvent qui est donné, notamment par les ministres et tout, c'est de dire, ouais, mais si, en fait, on ne fait pas ça, il n'y aura jamais de travail en détention. Et voilà, et rappeler qu'en fait, l'administration pénitentiaire fonctionne principalement sur des gens qui travaillent de cette manière-là, et que, en fait, laver les draps ou repeindre, voilà, c'est pas délocalisable comme ils disent, et donc ils pourraient payer correctement les gens.
Ouais, parce que du coup, ce qu'on rappelle souvent et que là on n'a pas dit, c'est que le travail des prisonniers, il est pas du tout payé comme à l'extérieur. Après, il y a aussi des endroits à l'extérieur où les gens sont payés en dessous du SMIC et tout, comme les ESAT, ou alors des tafs qui sont faits par des sans-papiers et tout. Mais donc, en tout cas, les prisonniers, ils sont payés entre 20% et 40% du SMIC. Donc, en fait, c'est rien. Et c'est pour ça que Blanche dit ils s'en mettent plein les poches et nous, nada. Et en fait, la fermeture des ateliers pendant l'été, ça veut aussi dire pas de rentrée de thunes pour les prisonniers qui travaillent. Donc après, c'est toujours ce truc que de toute façon, ils s'en foutent plein les poches au détriment des prisonniers, puisque ils les payent quasiment rien quand ils bossent. Mais par contre, tout ce que tu dois acheter à l'intérieur, c'est hyper cher. Et donc, ça démultiplie un peu ces galères de thunes-là, quoi.
Oui, puis ils leur font bien ressentir aussi que les places sont très chères, parce que genre, il n'y a pas tout le monde qui travaille en détention. Et que justement, c'est un peu ce qu'ils racontent, Blanche, dans cette lettre-là. C'est aussi, en fait, t'es payé une misère, mais aussi c'est ce truc de t'es trop vieux, et à un moment, on va finir par te tège. Et en fait, t'as tout le temps constamment peur que de ça. Et tu vois les gens se faire tège à côté de toi. Et tu vois qu'en fait, c'est cette pression en rendement, et aussi, voilà, de ce truc d'être trop vieux, il y a un problème, tu peux pas travailler, et selon eux. Et c'est une manière aussi, et je pense c'est ce qu'ils racontent assez bien, c'est une manière de mettre la pression aux autres aussi, de voir tous les gens qui se font tèche du taf. En fait, ça pousse au rendement et au fait que tu vas dépasser tes limites humaines aussi, pour travailler et puis te faire exploiter toujours plus, quoi.
Et pour le rappeler, Blanche nous avait écrit une lettre il y a quelques mois où il s'était fait virer parce qu'il s'était senti mal une après-midi et bim, il avait tâche de son taf, quoi.
Et puis c'est... Donc, et le travail en détention, en fait, il a donc ce truc important de thunes et tout ça. Et puis en fait, ça permet aussi de sortir de sa cellule. Et c'est ça aussi... il y a la question de la thune, mais en fait, il y a aussi beaucoup la question d'avoir une activité à l'intérieur, parce qu'en fait, c'est insupportable d'être enfermé dans sa cellule tout le temps. Et donc, les gens... si c'est tant demandé aussi... ça fait aussi partie du truc. Et donc, c'est toujours aussi utilisé comme une récompense. C'est-à-dire que c'est parce que tu vas bien te comporter et tout ça. Et il y a souvent... Il y a un truc qui est soi-disant dans les textes, mais en fait qui n'est jamais appliqué, qui est en fait, normalement, tu n'as pas le droit de te faire licencier pour un comportement à l'extérieur de ton travail, quoi. Sauf que là, en fait, vu que pour des mesures de sécurité à chaque fois, parce que de toute façon, ils justifient tout comme ça, si tu as un souci dans la détention avec un maton et tout ça, en fait, ça peut avoir des conséquences sur ton travail, quoi. Alors que... même si dans la pratique c'est toujours un peu plus compliqué. Par exemple, le fait d'être incarcéré, ça n'entraîne pas un licenciement d'office de ta part à l'extérieur. C'est parce que tu manques au travail et tout ça, mais en fait ton employé il peut aussi te mettre en congé sans solde et il n'est pas obligé de te licencier, genre de truc. Et en tout cas, ce n'est pas automatique du tout. Et eux, par contre, ils peuvent le faire à l'intérieur, encore une fois, parce qu'il y a zéro droit du travail et tout ça. Et il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de luttes là-dessus et tout ça. Et c'est quand même assez délirant en fait sur l'aspect juridique en tant que tel, sur qu'est-ce qu'est la définition du travail, sur lequel en fait c'est vraiment des on tord le droit le maximum possible pour pouvoir continuer à garder cette application, ça nous surprend pas, mais c'est toujours la même chose. Mais en tout cas, plein de force à toi. Et aussi, ça vaut le coup de le dire là maintenant. C'est C'est ce qu'on dit souvent en fait quand la radio elle ferme pour l'été là, voilà qu'on souhaite plein de courage à l'intérieur parce qu'on sait que l'été c'est toujours un moment vraiment toujours rude parce que bah il y a de moins en moins d'activités, il y a moins de travail. La Blanche nous le dit très bien et en plus il y a moins aussi de visites des proches et en plus tu tapes souvent des canicules. C'est un truc qui est vraiment hyper important parce que dans ces périodes là en fait c'est souvent des moments où la détention elle est particulièrement rude et voilà. Et en plus, il n'y a plus l'envolée à écouter, donc ça doit être...
Ça doit être vraiment terrible.
C'est vraiment le pire
gens,
du pire, quoi. Mais mais en tout cas, franchement, ouais, plein de force à toi. On espère que les activités ont repris et tout, quoi.
Ouais, et pour continuer un peu sur cette même thématique du travail, là, on va lire deux lettres d'Aurélie, qui nous parle aussi de son taf d'oxy en buanderie, justement. Enfin, la deuxième lettre. Le 19 juillet. Bonjour toute l'équipe de l'envolée et tous les détenus. Je n'ai donc dormi qu'une nuit au sol, puis cette détenue a changé de cellule. J'ai retrouvé mon lit. Mais deux jours après, on nous a retriplé avec une détenue complètement dans le déni. Elle m'a crié dessus dimanche il y a 15 jours. Elle a changé de cellule et pourtant, la gradée du quartier femme veut qu'elle revienne en cellule avec moi et Mako. Surpopulation carcérale à Vivonne. Nous sommes au total environ 830 détenus pour 500 places. À la MAH, la maison d'arrêt pour hommes. Certains hommes sont jusqu'à 4 par cellule. Nous, c'est bien vrai. Triste réalité. La gynécologue m'a bien donné un traitement pour l'anémie, donc ça va, je me sens mieux. Que vous dire de plus, à part que Vivonne m'épuise. J'aimerais déjà être à Fresnes pour mon CNE. Bonnes vacances à toute l'équipe de l'Envolée, Aurélie. Et j'enchaîne avec la deuxième. Donc celle-là, elle est du 28 août. Bonjour à toute l'équipe de l'Envolée. Bonjour à toutes les détenues et à tous les détenus ainsi qu'à vos proches. Si je vous écris ce jour, ce n'est pas pour vous parler du beau temps ou de la pluie, mais parce que j'ai un mal-être causé par l'administration pénitentiaire. Je vais me répéter. Mais étant aussi buandière au quartier femmes, car la buanderie a brûlé, je subis les pressions. La chef n'a jamais été pour que je travaille en buanderie et cherche par tous les moyens à me pousser à la faute. Ainsi que certaines surveillantes. Surveillante feignante car ce matin, lors de la distribution des kits cellules, la surveillante a demandé d'aller moins vite et de donner le kit à l'ouverture de la porte car elle avait la flemme de se baisser pour mettre le kit en cellule. Entre guillemets, je vais plus avoir de dos. Si tu n'as pas la santé, change de travail. Je veux être transférée et je sais que, dans les jours à venir, je finirai au mitard car je n'en peux plus de la détention. Le 7 septembre, ça fera 6 ans que je suis à Vivonne. Je veux partir d'ici, c'est du harcèlement moral, psychologique. Alors oui, j'ai envie de laisser mon travail, ne plus me battre, ne plus sortir de la cellule. Mais il serait trop content ici. Voilà mes petites mésaventures. Courage à toutes et tous, Aurélie.
Merci, plein de force à toi. Sur la surpopulation, on va en reparler un peu dans le reste de l'émission, notamment pour parler de Tarbes et puis un peu des recours qu'il y a et tout ça. Mais c'est clair que c'est du délire. En fait, tu dis bien aussi en fait comment l'administration elle crée des tensions en fait entre les prisonniers entre eux et tout. Et en fait, c'est quand même enfin voilà, c'est de la responsabilité de l'administration, mais en fait, tu as toujours à un moment un énervement qui peut arriver contre la personne qui débarque et tout ça, parce que voilà, et donc c'est toujours aussi dur à maîtriser. Et ça fait toujours partie le truc où en fait l'administration elle te force à vivre avec des gens avec lesquels tu n'as pas non plus nécessairement choisi et tout ça, et voilà. Et dès que tu commences à bien t'entendre avec des gens, c'est très souvent le moment où en fait ils vont te séparer et tout ça, parce qu'en fait la solidarité c'est des choses qu'ils aiment pas, et donc ils préfèrent toujours qu'il y ait ça et qu'il y ait des tensions entre les gens, parce qu'à partir de là ça leur permet d'avoir un peu plus de pouvoir en fait sur les gens et tout. Voilà, après moi j'ai bien aimé ton pléonasme des surveillants feignants. Voilà, je trouve que c'est bon, toi-même tu sais. Mais voilà, par contre pas trop capté le bail de kit et tout ça, je sais pas, c'est peut-être le kit le kit d'hygiène ou je sais pas trop quoi qui devait filer voilà. Et puis non, mais moi je voulais dire que c'est pas seulement s'ils ont pas la santé qu'ils doivent changer de travail, ils doivent tous changer de travail quoi. En fait il y a un moment enfermé, ça devrait jamais être un travail en fait. Donc nous il y a plein de slogans qui sont dits et tout ça qu'on reprend pas, voilà. Mais nous par contre ce qu'on dit régulièrement c'est démissionner tous, voilà, quel que soit votre uniforme, voilà, que tous ces gens en uniforme démissionner, voilà. Et et ouais, enfin, je sais pas, ça dit quand même beaucoup sur les maisons d'arrêt et tout ça, et c'est quand même franchement un enfer d'entendre ce genre de truc, voilà. Et c'est beaucoup plus facile de l'entendre que de le vivre et tout, mais c'est essentiel de rappeler ce truc. Enfin voilà, quand tu dis 4 personnes en cellule, enfin je veux dire, faut c'est peut-être. C'est peut-être cool de rappeler en fait que Poitiers-Vivonne, en fait, c'est une tôle qui est quand même globalement assez récente. C'est un CP qui a été construit dans mes années, si je me trompe pas, c'était il y a une quinzaine d'années, même pas, et tout, qui se voulait être ces nouveaux donc centres pénitentiaires qui réunissent donc plusieurs types d'établissements et tout ça à la fois, qui ont été foutus vraiment à l'extérieur de Poitiers et tout, donc qui est difficilement accessible. Mais donc en fait, c'est quand même voilà, il a suffi de 10-15 ans pour une nouvelle tôle pour qu'en fait elle soit remplie à un niveau complètement délirant, enfin voilà, et je sais pas précisément pour Vivonne, mais en tout cas à chaque fois il y a toujours ce discours de dire ah ça va enfin permettre l'enseignement individuel des conditions à peu près dignes et tout ça, et puis en fait voilà ça se termine, enfin ça n'existe pas en fait. Voilà. Et donc ça, c'est, enfin voilà, ce pareil, enfin voilà, à l'envolée on dit pas que ça doit être obligatoirement de l'encellulement individuel, c'est, on pense que ça doit être au choix des gens, voilà, parce qu'en fait il y a des moments où t'as envie d'être avec des gens, d'autres moments où t'en as pas envie et tout. Mais en tout cas plein de force, parce que là clairement 6 ans en maison d'arrêt en fait c'est très 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 long, enfin c'est difficile de se rendre compte en fait, voilà, enfin faut savoir que les maisons d'arrêt à la base t'as pas le droit de passer, enfin comment c'est créé, en tout cas c'est que t'as pas le droit de faire une peine de plus de 2 ans, voilà, donc voilà, et donc en fait de fait c'est même architecturellement, c'est pas les mêmes espaces. C'est faire en sorte pour qu'il y ait de moins possible d'espaces collectifs. Il n'y a pas de quartier ouvert, donc ça veut dire que à chaque fois, t'es enfermé 22 heures sur 24 tout le temps, et pendant 6 ans. Enfin, enfin, voilà quoi. Et donc, ouais, putain, filer un putain de scène, quoi. C'est ouf, quoi.
Et ouais. Peut-être, vas-y.
Bah, enfin, et force à toi, parce que comme tu dis, c'est de te pousser à bout, mais tu sais très bien que ce seraient eux les premiers à être contents que tu cèdes, et donc vraiment force là-dessus, quoi. Force, et notamment pour le taf, ce que tu décrivais là dans ta seconde lettre, où vraiment ils font tout pour te pousser à bout. Et donc j'espère que c'est bientôt.
Parce que là, on voit bien dans cette lettre à quel point il faut galérer de ouf pour garder son taf, quoi. Au-delà, enfin là, Blanche, il nous parle des cadences infernales et tout. Et Aurélie, elle nous racontait dans une lettre précédente que les conditions dans lesquelles elle bosse à la buanderie, où en fait elle est enfermée à clé dans un espace sans toilette parce que elle utilise la machine à laver de la nurserie dans laquelle il y a une maman avec laquelle elle n'a pas le droit d'être en contact. Donc elle bosse dans des conditions super difficiles, et en plus avec la bande de matones autour qui essaye de la faire craquer. Et donc il y a cet enjeu qu'on disait tout à l'heure de aussi travailler pour sortir de sa cellule, et là on voit qu'elle se bat parce qu'elle a envie de renoncer et qu'en même temps elle a pas envie de les laisser gagner, quoi. Et pour ajouter un truc sur la surpopulation dont elle parle, faut aussi rappeler ce que c'est de dormir sur un matelas par terre dans une cellule. Ça veut dire qu'en fait dans la journée tu lèves, enfin on le dit souvent à l'antenne, hein, dans la journée tu pousses le matelas ou tu le fous sous le lit pour qu'il y ait un peu d'espace, donc t'as pas d'endroit où te poser. C'est aussi un endroit où en fait dans la plupart de maisons d'arrêt et tout, bah c'est juste dégueulasse, il y a des bestioles partout et tout, donc t'es aussi beaucoup plus exposé à ça. Et dans le rapport de la CGLPL sur la tôle de Tarbes dont on va parler plus tard, il y a des prisonniers qui racontent qu'en fait ils dorment à deux dans le lit en hauteur pour éviter de se faire piétiner par les bestioles, quoi. Donc c'est quand même hardcore.
Mais en tout cas vraiment ouais, plein de force à toi, et bah voilà les bails que rappelait Jade et tout ça, mais voilà de en fait vivre par en résistant face à l'administration pénitentiaire aussi. C'est les moments où ils ont réussi à casser ça. Et c'est très généralement leur objectif. Voilà. Et bah, ça fait partie de leur petite victoire. Et voilà. Et en tout cas. Plein de force à toi.
Oui, et puis toi, ta petite victoire, c'est peut-être aussi de faire sortir la parole, de raconter ce qui se passe, et que c'est peut-être une victoire de... Enfin, voilà, c'est... Mais en vrai, c'est petite victoire par petite victoire, et des fois, récupérer un peu de pouvoir sur ces gens qui veulent te faire craquer, qui permet... Enfin, juste, en vrai, si merde de faire sortir cette parole-là, et qu'elle existe, et de nous écrire, et en vrai, c'est grave important.
Et cool aussi, parce que enfin, la dernière lettre qu'on avait lue de toi, tu parlais de l'anémie et tout ça, et qu'ils ne voulaient pas te filer les médocs. Et je ne sais pas comment ça s'est passé, on ne saura pas, mais en fait, ce qui est sûr, c'est que dans la lettre que tu nous écrivais la dernière fois, ça faisait plusieurs fois que tu le réclamais et tout ça. Et donc, ne pas lâcher, c'est toujours important.
Voilà. Par contre, ils n'ont pas de médecin pour... Enfin, c'est une gynéco qui s'occupe de l'anémie, quoi.
Wow. Normalement, gynéco, elle est aussi médecin, mais en tout cas, c'est sûr. Enfin, voilà, de toute façon, c'est sûr que s'il y a une surpopulation comme ça et tout... Oui. Voilà. Il restait une petite lettre.
Ouais. On va vous lire une lettre de Zouzou qui... date du 8 juillet 2024. Coucou l'envolée. La chaleur commence à nous assommer. Perso, je suis en mode mot croisé, mot fléché, niveau 1, 2. J'apprends. J'aime beaucoup ça. J'ai posé une perme pour le 2021, mais à mon avis, ça sera un refus. Ainsi, subi beaucoup de décès. Je n'ai plus de prise en charge. Une personne sur un jour ou plus qui s'engage à venir et à me ramener, c'est dingue. Sans ça, pas de perme. La santé, haha. Je fais des typos. Je ne suis pas diabétique, cela reste hélas dangereux. Et le suivi, n'en parlons pas. La juge avait demandé une surveillance accrue due à mes pathologies. Bah la vache, nada. Rien que là, 2 mois sans consultation. Et je me suis fait peur plusieurs fois. Malaise, étouffement. Le souci est que je ne me plains pas. Donc, c'est abusé. L'infirmière me voit par terre et rien. Être malade en prison est loin d'être un long fleuve tranquille. Je décrivais aussi les couacs. J'ai perdu de l'administration. J'ai disparu de l'administration. MDPH, sécu, en cours de recherche. En attendant les cantines, l'hôtel sont plus que légers. Il n'y a pas beaucoup de bonnes nouvelles, hélas. J'espère à bientôt. Zouzou.
T'es meilleur que moi en mots croisés. De ouf. Parce que moi, pendant les vacances, j'essaye de faire ça, mais j'arrive trop up. C'est une catastrophe. Derrière ces blagues, c'est toujours la même merde en fait, c'est ouf parce qu'en fait on déroule les mêmes trucs et puis chaque lettre confirme ce qu'on disait avant et tout. Peut-être là pour un peu dire c'est quoi la galère que c'est de faire des papiers administratifs quand t'es à l'intérieur de la détention. Voilà, où normalement tu dois être soutenu, aidé par ton SPIP à ce moment-là. Donc ces soi-disant travailleurs sociaux en détention qui sont plutôt là en fait pour faire de la gestion de la peine et tout. Et donc, et qui sont surtout là pour te sucrer des RPS et autres. Donc voilà, et donc si à un moment en fait il commence à y avoir une micro-couille avec les papiers administratifs, autant dire que c'est une galère de ouf et tout va prendre des milliards d'années, voilà, et ça s'ajoute au fait que tout est maintenant informatisé et autres, et donc pour pouvoir avoir des contacts ça prend un temps de Guedin, et donc c'est quand même assez inquiétant, notamment sur les bails d'MDPH et ce genre de choses, parce que ça doit, enfin c'est important qu'il ait suivi sur ces trucs là et tout. Ça dit aussi pas mal sur c'est quoi être une meuf en détention, où en fait c'est à cause des décès et tout ça, mais en fait les meufs en détention, elles sont, enfin en tout cas c'est les meufs souvent qui font tout le travail du care auprès des mecs en détention et tout, et que c'est très souvent des meufs qui se retrouvent isolées, et puis là en fait ça a des conséquences concrète que là tu décris très bien par rapport à la perme, au-delà de ne pas avoir de parloir ou de mandat ou ce genre de choses. Voilà, et c'est un truc important parce que l'isolement des meufs enfermés, il est souvent bien plus important que chez les mecs. C'est lié à la société patriarcale, c'est aussi lié au fait qu'il y a moins de maisons de prison pour femmes, et donc en fait ça expose beaucoup plus facilement les liens familiaux. Et tout. Donc il y a la société, mais il y a aussi l'administration pénitentiaire qui a cette responsabilité là-dedans.
Oui, et puis ça fait un moment que Zouzou elle nous parle de ses gardes de santé et qu'en vrai genre il fout rien et que en fait qu'il y a aucune prise en charge pour elle, que en fait au-delà même de pas avoir de prise en charge, bah ils la foutent de plus en plus dans la merde, et en fait c'est de la maltraitance médicale parce qu'en fait ça va de plus en plus mal, enfin moins t'es prise en charge plus ça va mal tes problèmes de santé, plus tu galères, et en fait c'est ce qu'elle dit dans cette lettre de en fait cette infirmière qui la regarde à terre évanouie. Bah c'est exactement tout l'exemple de en fait ils en ont rien à foutre de sa vie quoi, et c'est à cause d'eux aussi qu'elle va de plus en plus mal, et que en fait à l'extérieur ça serait sans doute bien différent aussi. Et je pense que c'est tout ça qu'il faut rappeler, toute l'histoire de Zouzou et toutes ces galères médicales là quoi.
Et on va lire un dernier petit texte.
Oui, si.
Ouais, on voulait donner des news d'Eddy. Donc Eddy, on avait passé un enregistrement de lui qui avait été fait par Info Prison Saint-Étienne, que vous pouvez trouver sur internet. C'est un blog qui fait un taf de ouf dans ce qui se passe à la Talaudière, donc la maison d'arrêt de Saint-Étienne. Et il avait été condamné à 18 mois ferme après une espèce d'histoire où il avait été accusé d'escroquerie par l'État parce qu'il avait perçu ses allocs chômage en tôle. Et donc là, en fait, il est en attente d'une réponse pour un aménagement de peine. Et en fait, il se trouve que le juge n'était pas là. Et du coup, bah, il a passé tout l'été encore en prison. Et donc, c'est un... Je vais vous lire un texte de lui qui est paru donc toujours sur ce même blog que on vous encourage bien à aller voir si vous voulez des nouvelles régulières de ce qui se passe à la Talaudière. Je suis passé en commission pour un aménagement de peine à la fin du mois de juin. Je devais avoir la réponse le 5 juillet, mais ce jour-là, on m'a dit que le juge d'application des peines, M. Di Noto, était absent et qu'il fallait que j'attende son retour pour avoir la réponse. Ensuite, le temps est passé, et on m'a dit qu'il fallait que j'attende qu'il soit remplacé car il n'allait pas revenir tout de suite. Puis, on m'a dit que la remplaçante ne voulait pas prendre de décision concernant la sortie pour des aménagements pour des détenus dont elle n'avait pas suivi le dossier. Donc je me suis retrouvée bloquée à passer l'été à la Talaudière, et je ne suis pas du tout le seul dans ce cas. Là, la SPIP est rentrée de vacances, et elle me dit que je n'ai pas eu de chance, que c'est sûr que mon aménagement aurait été accordé et que le juge lui avait demandé de prendre un rendez-vous à France Travail pour moi. Elle me dit que c'est pas normal que ça se passe comme ça et qu'il faudrait que j'en parle à l'OIP. Et aussi que le juge va revenir le 9 septembre, donc de toute façon, il n'y a rien qui bougera d'ici là. C'est hallucinant. Vous imaginez si le juge est absent pendant 6 mois, il se passe quoi ? Eddy.
Ça rend ouf.
Ouais.
En fait, c'est vraiment, ça rend ouf et c'est complètement... Enfin, ça marche sur la tête, quoi. Après, déjà, ce bail de cette juge qui dit « Ah non, je vais prendre aucune décision là-dessus et tout ça », mais ça montre bien quand même vraiment leur arbitraire, quoi. Voilà, et comment ça se passe dans leur tête, quoi. Voilà. « Ah, mais j'ai pas suivi. Ciao, bye-bye. Je laisse les gens enfermés. Je m'en bats. » Voilà, donc ça, c'est quand même... Enfin, voilà, c'est quand même... Mais ça montre... Enfin, je veux dire, on n'arrête pas de le répéter. C'est quoi l'humanité des juges et tout ça. Bah là en fait on en a quand même un très bon exemple, voilà. Et après derrière en fait c'est quoi cette SPIP aussi, quoi, parce que ah ouais, t'as bien les boules, wesh. Enfin je sais pas, il y a un moment, enfin tu vois, il y a un moment, c'est quand même complètement délirant, le truc de t'as pas de chance. En fait c'est même pas un truc de t'as pas de chance, en fait, parce qu'en fait le parcours de la peine et le rôle de voilà, en fait tout ça c'est mis en place par l'État, donc c'est pas une question de t'as de la chance, t'as pas de chance et tout ça. En fait c'est l'État qui permet ça et qui permet que ça fonctionne. Et puis elle, en fait, elle rentre de vacances, oh là là, t'as pas de chance, mais en fait elle pouvait aussi se bouger, et puis elle pouvait aussi appeler la JAP qui refuse de prendre des décisions en disant non mais franchement là vous pouvez quand même le faire pour ces 3-4 dossiers et tout. Surtout qu'en fait, ils se connaissent, en fait, entre SPIP et juge d'application des peines et tout ça. Et donc, en fait, il y a souvent des rapports de... de collusion qui se passe entre eux et tout ça. Et donc, en tout cas, ils savent bien écouter des spips quand il y a des spips qui leur disent non, ne fais pas sortir telle personne, ne fais pas sortir telle autre. Voilà. Et donc, en fait, ils peuvent aussi le faire à l'inverse. Mais sauf qu'en fait, ni un spip, ni un juge sera prêt à prendre ce genre de décision et porter le truc, quoi. Donc, qu'elles viennent complètement se décharger sur oh là là, la justice, elle fonctionne mal, il n'y a pas assez de personnes. Mais en fait, c'est vraiment du foutage de gueule intersidéral, quoi. Voilà. Et en plus, enfin, je sais pas comment tu reçois ce genre d'informations à l'intérieur, mais en fait, t'as envie de péter les murs, quoi. Y a un moment, faut arrêter de déconner. On peut pas être sur un truc, voilà, de y a pas de chance et tout ça. Et je suis sûr qu'en plus, elle, en se disant ah, tu devrais contacter l'OIP, elle pense qu'elle est de gauche et qu'elle fait des trucs bien, quoi. Mais va manger, enfin, c'est quand même. C'est
va
quand
manger,
même,
t'es mort.
C'est quand même un truc. Alors... Non, mais c'est quand même vraiment un truc de ouf. Enfin, je comprends pas comment tu peux te placer dans un truc comme ça et surtout en fait rejeter ta responsabilité que t'as toi en tant que spip et donc pardon, je suis désolé, mais je suis pas du tout désolé en fait. Mais c'est spip en fait qui se croivent être réellement des travailleurs sociaux et tout ça, d'aider les gens et tout ça, alors qu'en fait ils font que participer à ce genre de décision. Et là en fait, elle fait que valider en fait ce qui s'est passé au lieu de foutre la pression, voilà. Donc là, aujourd'hui, le mec, il doit revenir lundi, quoi. Putain, j'espère que elle va foutre la pression pour que mardi, il y ait une décision qui soit prise à propos d'Eddie, parce que là, il y a un moment, enfin, je veux dire.
Oui, et puis c'est tout ce discours qui, c'est ce qui raconte bien de haut et des bas, en fait, de genre, t'aurais dû sortir, mais en fait, tu vas encore attendre à moi. Enfin, genre, c'est tout le temps, je te laisse aller un petit. Et puis c'est ce truc de se faire passer pour des gentils, comme si, genre, eux, c'est que un petit, ce que tu raconterais bien, mais c'est ça, c'est juste, nous sommes un maillon de la chaîne, mais en vrai, on n'est absolument pas responsable de rien du tout. Et tu joues la bonne flic, alors qu'en vrai, t'es une flic comme les autres, en fait. Et nous fait pas croire que. Enfin, on sait très bien le pouvoir qu'ils ont, les spips, quoi, ça rend fou, vraiment.
Ouais, en mode, je compatis avec toi, mais en fait, si vraiment tu te bouges le cul, tu peux, et te dire, mais je te recommande de faire un signalement à l'OIP, mais on est ouf, hein.
Et puis surtout, genre... en fait, fais-le toi.
Ouais,
en fait,
c'est ça.
En fait, il y a un truc quand même. Toi, tu peux signaler, en fait, le truc, c'est que toi, t'es à l'extérieur. Toi, tu peux le signaler, en fait. Toi, tu prendras pas de risque à le faire, en fait.
C'est ça.
Et là, en fait, de demander à quelqu'un d'écrire à l'OIP quand tu sais après derrière quelle va être la gueule des répressions que tu vas te taper quand on voit que t'écris à l'OIP ou au contrôleur général ou ce genre de choses ou à l'envoler comme ça peut arriver. Là, c'est vraiment, mais...
Ça montre le niveau d'irresponsabilité. Enfin, les gens ne sont pas responsables de leur taf, quoi. Enfin, rien n'est de leur. Enfin, c'est un niveau d'irresponsabilité qui est quand même assez fou, quoi. Enfin, je me demande comment ils se voient.
Mais tu vas organiser un petit concert en détention, puis tu vas avoir réussi ton année. C'est bien. Bravo, félicitations. On parlait de la Talaudière. On voulait parler aussi d'un mouvement collectif qu'il y a eu lieu à la Talaudière et parler de trois mouvements collectifs dont on n'a pas eu d'infos directement. Voilà, donc ça va être des informations qu'on a soit récoltées dans la presse bourgeoise, soit récoltées dans les syndicats de port. Mais n'empêche que les mouvements collectifs restent importants, mais donc on ne sait pas toujours à chaque fois quelle a été la raison et tout. Et on n'est pas naïf sur le fait que quand on ne sait pas qu'il y a une raison, il y a toujours une raison. On ne se révolte pas pour rien à l'intérieur de la détention.
Ouais, il y a eu plusieurs blocages à la Talo cet été. Il y en a eu un le 9 août avec des prisonniers du bâtiment A du coup, qui ont bloqué et qui sont finalement remontés. Et un autre le 14 août à 17h avec une cinquantaine de prisonniers. Et ce blocage-là, il a duré plusieurs heures. Il y a eu un incendie de banc et apparemment d'un abri dans la cour de promenade. Il y a des vidéos qui sont sorties sur les réseaux. Et suite à ça, il y a une personne qui a été placée au mitard. Ce qui, bon, du coup, il se passe à peu près la même chose que d'habitude. C'est que les syndicats de Maton gueulent et ils veulent donc des transferts, plus de mitards et plus de punitions. Donc là, il y a notamment un délégué UFAP, UNSA, qui regrette qu'un placement au mitard et que la direction ne transfère pas de prisonniers et ne prenne pas de sanctions contre d'autres personnes qui ont participé à ce blocage. Et là, il y a quelques jours, lundi 2 septembre, il y a eu encore un blocage à la Talaudière d'une trentaine de prisonniers du bâtiment A qui ont refusé de remonter de promenade pour protester contre la mise au mitard d'un autre prisonnier. Et voilà, comme d'hab, ils ont envoyé les ERIS, les ELSP et tout le monde, et les syndicats de Maton ont encore râlé parce qu'ils voudraient qu'il y ait des transferts, en fait. Parce que les transferts, dans ces moments-là, où il y a des mouvements collectifs dans la tôle, c'est souvent une manière de casser la solidarité qui s'est construite. Et...
Et ce qui doit être assez probable à la Talo, en fait, c'est que le mitard, il doit être blindax. Mmh. Et donc, parce qu'en fait, tu mets rarement qu'une seule. Enfin, en fait, quand ils décident qu'il y a des meneurs. Et tout ça parce que c'est toujours le même bail qu'ils font en fait, et donc c'est ces personnes là qui vont foutre au mitard, et bah ils en mettent rarement une seule, et donc voilà. Mais bon, ça on sait d'histoire de l'envolée, d'histoire de prisonniers, que c'est toujours le moment où les mouvements collectifs ils marchent le mieux, c'est que quand le mitard est plein, et bah en fait tu peux pas faire grand chose, et donc c'est pour ça qu'ils demandent des transferts, c'est que en fait ils veulent pas, enfin voilà, le mitard il est blindax, c'est sûr que c'est ça.
Oui, ils seraient pas privés d'une si belle occasion pour en mettre qu'une seule personne.
Donc voilà.
Ouais, et du coup, bah, apparemment, du coup, là, ce blocage, c'était en solidarité avec un prisonnier placé au mitard. Ce dont parlent pas trop les syndicats de Mâton, la suite à ce blocage, c'est que la veille de ce blocage-là, il y a un prisonnier qui s'est suicidé à la Talaudière, qui avait 24 ans et qui était au quartier arrivant. Et en fait, ce prisonnier-là, il y avait été enfermé en attente d'une expertise psychiatrique pour un procès. Donc après une comparution, ils ont voulu le passer en comparution immédiate. Ils ont décidé qu'il fallait faire une expertise psychiatrique. Donc comme souvent, ils envoient les personnes en taule pour attendre ça. Donc c'est super de laisser les gens suicider en attendant une expertise psychiatrique. Et ce qu'on apprend sur le blog Info Prison Saint-Etienne, c'est que l'administration a chargé d'autres détenus de vider et de nettoyer la cellule du gars qui s'était pendu, quoi.
Toujours cette même ignominie. Ça me fait penser, là, cet été aussi, à Mauchoconin, il y a eu exactement un bail identique où la personne devait être sortie. Voilà, il a eu sa peine et tout ça, il devait sortir. Et en fait, au tribunal, ils l'ont refoutu, ils l'ont réenfermé.
Sur une erreur administrative.
Voilà. Et la personne a été retrouvée morte. Voilà. Et là, par contre, c'est beaucoup plus trouble, la manière dont elle a été retrouvée morte. Et en fait, on connaît la capacité des matons de Meaux, qu'ont tué Jimoni il y a 3-4 ans maintenant. Ils s'étaient auto-balancés entre eux et tout ça, donc enfin voilà, enfin, en tout cas même les matons ont dit qu'il y avait eu des violences sur Jimoni et tout ça, et donc voilà, une histoire à peu près identique de ce genre de bail, quoi.
Et il y a eu d'autres mouvements collectifs, ouais, cet été, donc évidemment on n'a pas énormément d'infos. S'il y a des gens qui nous écoutent qui ont d'autres infos ou qui ont envie de raconter, bah faut pas hésiter. Il y a eu un blocage à Seyss, donc à la tôle de Toulouse, le 14 août, avec 47 prisonniers qui ont refusé de réintégrer et qui se sont pris les hérisses sur la gueule. Et sinon, il y a un mouvement sur lequel il y a un peu plus d'infos qui sont sorties. C'est un mouvement à la maison d'arrêt de Reims, les 8 et 11 août, où il y a une vingtaine de prisonniers qui ont refusé de remonter de promenade. Donc encore une fois, ils ont envoyé les hérisses, ils sont remontés au bout de 2h30 et ils ont placé deux prisonniers au mitard. Et là, la revendication des prisonniers, celle qui a été mise en avant, c'est de pouvoir prendre une douche tous les jours. Parce qu'en fait, il y a des endroits, quand la douche n'est pas en cellule, tu as le droit à 2 ou 3 douches par semaine. Quand il fait 50 degrés dans ta cellule, c'est long, quoi. Et dans leurs revendications, il y avait aussi des meilleures conditions de détention, des meilleurs repas et plus d'activités. Là, en fait, ce mouvement-là, il a fonctionné, en fait, parce que la direction a accepté que pour les 3 semaines suivantes, donc là, on ne sait pas trop, ça doit être fini, c'est fini maintenant, quoi, ils aient le droit d'avoir une douche par jour. Et donc ça a énervé les syndicats de Mâton. Donc FO qui a parlé d'un recul inacceptable qui affaiblit l'autorité des surveillants et alerté sur une grosse surcharge de travail. Donc on repense à la lettre d'Aurélie qui les traite de feignants. Et donc le FO considère que la direction cède aux revendications de la population pénale et en fait a revendiqué que la direction change d'avis et supprime les douches pour les prisonniers. Le truc, c'est que comme d'habitude, il y a eu un article dans la presse, donc en fait, nous on sait pas si finalement la direction a accepté, mais c'est quand même hyper chaud de faire des tracts pour que les gens puissent pas se doucher tous les jours quand il fait hyper chaud en cellule, quoi.
Bah, c'est vraiment les syndicats de porcs, quoi. On va passer un petit coup de musique.
J'enflamme le gamos comme dans Belly, pas vu, pas pris, pas de flagrant délit. Baby veut partager mes nuits, j'écoute les démons de minuit. C'est vite la bohème d'Aznavour, l'été indien Joe Dassin. J'aimerais tant vous parler d'amour, j'suis écouté par trop d'assassins. J'ai grandi dans la Cali, entouré de mes carnales, vendeurs de sel'a et caillé. Sur le terrain, même quand ça caille, combien de pavés j'ai détaillé, combien de métaux j'ai fait tailler. Aujourd'hui, j'vais plus en entendre parler, j'rêve plus de faire sourire la madre. Yeah, yeah.
compte sur nous pour la qualité. C'est nous qui validons, on n'a pas besoin d'être validé. Je fais planer l'hôtel, je donne des cours à la maîtresse. Nana nous parle pas de stress, nous ce soir on est quadrillés. On veut la vie sur la mer, minimum 100 cas d'avance. Au quartier je passe les vacances, Christian Dior pour la fragrance. On a grandi dans les délits, baby veut partager mes nuits. Dans la benne j'ai mis du Nelly, y'aura pas des Mary Mary. On veut la vie sur la mer, minimum 100 cas d'avance. Au quartier je passe les vacances, Christian Dior pour la fragrance. On a grandi dans les délits, baby veut partager mes nuits. Dans la benne j'ai mis du Nelly, y'aura pas de Mary Mary. Cet été je reste au Tchad, centre Fougère, Belleville, Zou. J'ai pas compris pourquoi mon ex veut me faire des bisous. J'fais la contact dans une auto, j'prends le butin, j'ai la moto. Y'a mon moto sur les sapes, Goya floqué sur les sacs. Elle veut m'appeler Habibi, mais j'lui ai dit Kenini. On a la vista, les jutsu, on joue la guitare comme Yutu. Et ça fait rototototototot. Sur nous pour la qualité, c'est nous qui validons, on n'a pas besoin d'être validé. Je fais planer l'hôtel, je donne des cours à la maîtresse. Nana nous parle pas de stress, nous ce soir on est quadrillés. On veut la vie sur la mer, minimum 100 cas d'avance. Au quartier je passe les vacances, Christian Dior pour la fragrance. On a grandi dans les délits, baby veut partager mes nuits. Dans la veine j'ai mis du Nelly, y'aura pas de Mary Mary. On veut la vie sur la mer, minimum 100 cas d'avance. Au quartier je passe les vacances, Christian Dior pour la fragrance. On a grandi dans les délits, baby veut partager mes nuits. Dans la benne j'ai mis du Nelly, y'aura pas de Mary Mary.
Dans la rue je me suis fait le temps, auprès des dealers des Yuvois. J'ai mis la cagoule et les gants, maintenant je les guette tous du toit.
Bah ouais j'ai trop squatté les bandes, la cité c'est du prétoire. L'histoire d'un petit qui est devenu grand et qui est revenu marquer l'histoire.
Comme dit You vaut mieux être qu'avoir, sur ma vie je veux mettre du caviar. Et tant qu'il joue avec les cafards, je suis un enfant de la CAF.
Wesh ma petite gueule si un plan, n'hésite pas à me le faire savoir. J'suis comme Nikma, j'ai le cœur blanc, bah ouais, mais j'ai l'esprit noir.
Compte sur nous pour la qualité. C'est nous qui validons, on n'a pas besoin d'être validé. Je fais planer l'hôtel, je donne des cours à la maîtresse. Nana nous parle pas de stress, nous ce soir on est quadrillés.
On veut la vie sur la mer, minimum 100 cas d'avance. Au quartier je passe les vacances, Christian Dior pour la fragrance. On a grandi dans les délits, baby veut partager mes nuits. Dans la benne j'ai mis du Nelly, y'aura pas de Mary Mary. On veut la vie sur la mer, minimum 100 cas d'avance. Au quartier je passe les vacances, Christian Dior pour la fragrance. On a grandi dans les délits, baby veut partager mes nuits. Dans la benne j'ai mis du Nelly, y'aura pas de Mary Mary.
Vous êtes de retour à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel et en rediffusion un peu partout en France. Pour nous appeler toute la semaine, c'est au 07 53 10 31 95 ou pour le direct, le 01 40 05 06 10. Pour nous écrire, c'est l'envolée-fpp, 1 rue de la Solidarité, 75 019 Paris. Vous pouvez aussi nous écrire un mail à contact@l'envolée.net ou nous contacter sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta et Facebook. Donc ouais, on voulait continuer pour parler de Tarbes, parce qu'il y a eu pas mal d'activités, enfin en tout cas il y a des trucs qui ont été rendus publics récemment, et notamment un rapport de la contrôleuse Dominique Simoneau, et on voulait parler un peu de ce qu'elle dit, parce que en fait c'est déjà, juste pour commencer, c'est assez rare qu'en fait on reprenne directement les bails que fait Simoneau et tout ça, et on a quand même assez régulièrement pour habitude de rappeler la lenteur avec laquelle fonctionne cette administration. Néanmoins, souvent dans ces rapports, en fait, il y a quand même des bails qui sont dits, et parfois il y a un peu de parole des prisonniers et tout. Et là, c'est un truc un peu particulier où elle a fait ce qu'on appelle une recommandation en urgence. Donc c'est pas comme les trucs qu'elle fait d'habitude où ça met un an et demi et tout ça. Là, elle considère que la situation est tellement problématique qu'elle est obligée de faire ça en urgence. Alors, on va voir c'est quoi l'urgence de l'administration pénitentiaire et de l'administration dans son ensemble. Voilà, mais peut-être, voilà, peut-être, voilà, et surtout, en fait, ça dit beaucoup de choses sur, enfin, voilà.
Mais peut-être pour préciser, du coup, Tarbes, c'est une petite maison d'arrêt, et c'est, enfin, une petite maison d'arrêt, c'est-à-dire qu'il y a, enfin, c'est une maison d'arrêt pour hommes, déjà, avec un tout petit quartier de semi-liberté où il y a deux places, et du coup, à Tarbes, actuellement, il y a plus de 130 prisonniers pour 62 places, donc ça fait un taux de suroccupation qui est de plus de 200%. Et du coup, bah voilà, ce rapport, il intervient donc dans ce contexte-là, Il y a eu cette alerte qui a été faite en juin et des recommandations qui datent du 10 avril. Et en fait, la visite aussi, elle vient de... Enfin, c'était genre 2 mois avant, en mars. Du coup, c'est... Enfin, c'est, voilà, c'est pour recontextualiser un peu dans quel contexte se pose ce rapport, quoi.
Ouais, et ce rapport, donc, qui fait quelques pages, hein, comme disait Serge, c'est pas un rapport aussi long que les autres. Ce qui ressort le plus de ce rapport, c'est des violences systématiques qui sont commises par une équipe de surveillants qui sont identifiés par les prisonniers et qui reviennent constamment dans les témoignages. Et donc, cette équipe de matons-là qui commet des violences physiques et psychologiques, donc qui des coups, des étranglements, des insultes, des menaces, et de la rétorsion comme de la privation de repas, de promenades, des coupures d'électricité, des réveils brutaux anarchiques, tout le temps. Donc, on sait les conséquences que ça peut avoir de se faire régulièrement réveiller jour après jour en tôle et tout. Et donc, apparemment, la CGLPL, leur équipe, là, ils ont entendu plus de 50 prisonniers qui font des témoignages concordants et répétés de ces pratiques qui durent. Et le rapport précise bien que c'est pas que des pratiques récentes, mais qu'il y a des faits qui remontent à 2008. Donc, c'est vraiment un truc qui se passe... tout le temps dans cette tôle. Dans le récit de ces violences, il y a ça parle donc de la cellule 130, qui est une cellule de la maison d'arrêt, qui apparemment est utilisée un peu comme juste une cellule dans laquelle particulièrement ils vont aller tabasser, enfin les matons vont aller tabasser et brutaliser des prisonniers ou les enfermer arbitrairement, entre guillemets. Enfin, ils sont déjà enfermés, mais voilà.
C'est une cellule de torture, quoi.
Voilà. Et ce qui est rigolo, du coup, c'est qu'en arrivant, donc c'est une visite inopinée dont l'administration pénitentiaire n'était pas prévenue que l'équipe de la CGLP allait arriver. Les contrôleurs, ils ont exigé d'avoir les vidéosurveillance autour de cette cellule. Donc, je ne sais pas si c'est ces vidéosurveillance qui sont à l'intérieur de la cellule ou à l'entrée de la cellule. Et comme par hasard, en fait, ces vidéosurveillance-là, elles ont montré des violences sur un prisonnier, quoi. Et voilà, tu voulais continuer ?
Ouais, bah c'est un peu, enfin c'est drôle sans être sans être drôle parce que c'est affreux, mais en fait ils sont fait gauler, quoi. Et donc le truc aussi qui est important dans ce rapport, c'est que le ministre de la Justice, des tribunaux et des prisons, il est obligé de répondre à ça. Et donc il va être obligé de dire ce qui se passe et tout ça. Et donc la réponse elle est assez explicite sur le fait qu'en fait il signale des faits de violence qui sont enregistrés sur les caméras de vidéosurveillance. Il les signale qu'une fois qu'en fait la contrôleuse elle est rentrée dans la tôle, voilà. Et en plus il le dit de manière un peu perfide en disant ouais, il a averti, mais en fait on sent que ça a été fait à l'oral, donc en fait il n'y a aucune trace, et de toute façon ça va toujours être possible de dire le procureur a été averti parce que on l'a vu, enfin tu vois je l'ai eu au téléphone, mais en fait il y aura jamais aucune preuve de ça, et voilà. Et donc ce qui est un peu ouf dans la réponse que va faire Dupond-Moretti, ça va être de vraiment se centrer que sur ces faits que pour lesquels il y a une caméra. Mais sauf qu'en fait, ce que dit la contrôleuse, c'est absolument pas ça. Elle dit en fait qu'il y a des violences qui sont répétées, qui datent depuis très longtemps, comme tu le disais, et surtout en fait, elle le met dans la violence systémique de la prison. C'est-à-dire qu'en fait, et de cet établissement en particulier. Donc c'est un truc que nous, on n'arrête pas de répéter, que l'administration pénitentiaire est une institution qui est violente par nature, pour pouvoir enfermer, elle est violente et tout ça. C'est des choses qu'on a expliquées régulièrement. C'est pour ça qu'on a une plainte en diffamation, enfin on a soi-disant une plainte en diffamation sur la gueule pour expliquer qu'en fait les matons apprenaient des techniques à Fleury qui après derrière... se diffuser un peu partout dans les autres tôles de France et tout ça. Et donc vraiment, voilà. Et donc là, ce qu'elle explique, c'est qu'en fait, cet établissement à Tarbes en particulier, en fait, a été un établissement qui avait une situation plus sécuritaire que les autres dans les années à la fin des années 70 jusqu'au début des années 80, et que depuis cette période-là, en fait, perdure cette logique d'ultra-violence au moins de la part d'une équipe. Et donc là. Voilà, ce qui est clairement explicité, c'est qu'il y a une violence systémique de la part des matons, voilà, et surtout qu'il y a un apprentissage entre les équipes, parce qu'en fait c'est pas les mêmes qui sont là depuis voilà, et donc qui continuent à se diffuser. L'autre truc qui est complètement hallucinant dans cette réponse de Dupond-Moretti, c'est que en fait il va juste se centrer sur cette vidéo en disant on a bien fait notre travail, on a signalé. Bon, comme j'expliquais tout à l'heure, en fait il signale vraiment qu'à partir du moment où est-ce qu'ils sont ils sont gaulés, mais surtout en fait il passe sous silence toutes les paroles des prisonniers. C'est-à-dire qu'en fait, là, les contrôleurs, ils disent avoir interviewé plus de 80% de la population et que tous leur ont signalé, en fait, plus de 40%. Ouais. J'ai dit 80%, 40% de la population et que ça a été répété très régulièrement. Et ça, encore une fois, la parole des prisonniers, elle ne va pas être prise en compte. Et en fait, pour nous, c'était important de souligner ce bail-là, parce qu'en fait, même quand tu vas parler à travers une administration qui est censée avoir une certaine forme de légitimité et tout ça, et bah derrière, le ministre des prisons et des tribunaux va directement te passer sous silence, quoi. Et ça répond absolument pas sur ce point-là en particulier. Et donc c'est pas une surprise. Je veux dire, on a l'habitude quand même de le dire à cette antenne et tout ça.
Mais c'est même pas qu'il répond pas sur cette question, qu'en fait tous les témoignages des prisonniers sont concordants, c'est qu'il parle uniquement du coup de ces violences qui ont eu lieu le 2 mars, et il dit un incident grave mais exceptionnel qui ne doit pas remettre en cause l'appréciation générale du fonctionnement de l'établissement. Donc il dit en fait le contraire du rapport en disant que c'est une violence exceptionnelle.
Oui, puis surtout le rapport il dit pas que ça. Enfin, il y a aussi tout le truc de... Ils n'ont pas d'interphone, ils n'ont pas le droit de toquer aux portes, et du coup, ils ont juste un bouton. Et en fait, les matons, ils ne viennent pas. Et c'est tout le rapport, il raconte aussi ça, qu'il y a des malaises, et avec des temps d'intervention qui sont énormes. Il raconte qu'il y a, en effet, la suroccupation, mais aussi le fait qu'il y a la nourriture et l'insuffisance, insuffisante, les cellules, qu'il n'y a pas de travail, pas d'activité, enfin, quasiment pas de travail. C'est tout ça qui dit le rapport. Donc en fait, quand Dupond-Moretti dit « tout va bien dans cette prison », c'est en fait une manière de dire « fermez bien vos gueules », mais en même temps, vous avez parlé à notre... qui est fou, c'est que le contrôle de la liberté, c'est aussi l'État, quoi. Donc du coup, t'es un peu en mode... Non.
Et que du coup, en fait, dans la réponse qu'il apporte, il noie la question de la violence dans d'autres trucs, parce qu'il va juste mentionner un peu les violences. Ensuite, dans sa réponse, il dit « Non, mais en fait, il y a eu une formation éthique et déontologie pour certains personnels en avril, quoi. »
Ouais, bah c'est toujours ce même truc de formation. Enfin, voilà, pendant le procès de Sambali, ça a été vraiment le truc qui avait été sur lequel ils se disent. Enfin, donc là, il y avait la formation, puis il y avait la question de la note aussi dans la réponse de Dupond-Moretti. Et là, sur le baillon qu'ils avaient mis, qui a tué Sambali, ils disaient non, mais on a vraiment bien envoyé la note. Et donc, il y avait la question de est-ce que vous avez bien reçu la note et tout ça et tout. Mais en fait, pareil, dans la réponse de Dupond-Moretti, on voit bien la manière dont il y a une critique acceptable de la prison et celle qui ne l'est pas, quoi. Et en fait, la parler de la violence systémique des matons, ça, en fait, c'est pas possible. Par contre, en fait, sur le reste, bah, globalement, il l'admet, quoi. Il admet l'état des cellules, ils sont un peu pourris et tout ça, et voilà. Et il dit juste, on va faire des travaux. Il va pas contredire à ce niveau-là la contrôleuse ou mettre des phrases un peu chelou. Ils disent ouais, on essaye de faire beaucoup d'efforts, mais donc ça c'est globalement encore le même truc, quoi. C'est qu'en fait il y a une critique tolérable de la prison, c'est ce sur quoi les prisonniers et les prisonnières ont le droit de s'exprimer, c'est-à-dire ont le droit de dire que la toule c'est dégueulasse et tout ça, voilà, et tout. Pourquoi en fait on s'est toléré ça? C'est parce qu'en fait les pouvoirs publics et politiques ils réutilisent ça en fait pour dire ah bah vous voyez, faut vraiment qu'on augmente le nombre de tôles et tout, quoi. Et donc c'est toujours le même truc, mais là dans la réponse c'est vraiment hallucinant le truc.
Et il y a un truc qui apparaît un petit peu dans le rapport, mais qui est en fait pas vraiment explicité, c'est que bon, du coup, les contrôleurs du CGLPL, c'est quand même des gens un peu attentifs au bon fonctionnement administratif et au respect des règles administratives par les matons et tout. Du coup, il y a un truc qu'ils disent quand même, c'est que administrativement, cette tôle, elle respecte pas les règles en termes de traçabilité des documents et tout. Donc ils disent les fouilles sont peu tracées, elles sont faiblement motivées. Ils disent la politique disciplinaire est illisible. Et que du coup, bah, globalement, en fait, les papiers sont pas faits, les choses sont pas tracées. Et donc, ils écrivent très pudiquement que le fonctionnement s'avère largement dépendant du personnel qu'il met en œuvre. Et donc ça, c'est vraiment un truc, en fait, s'il y a une équipe de matons qui fait la loi dans la détention, qui peuvent en fait se détacher aussi des trucs de direction et tout, parce que c'est aussi ça qui arrive. Des fois, on le dit sur le fait que les syndicats de matons sont capables, en fait, de mettre la pression sur les directions des tôles pour obtenir des sanctions contre des prisonniers qu'ils n'ont pas à la bonne et tout. Donc ça, c'est vraiment un truc où ça reste très pudique, mais en fait, ce qu'ils disent, c'est que cette équipe de matons, elle fait complètement la loi dans la détention, quoi.
Et c'est assez classique, en fait. Enfin, et c'est, en fait, pour Seis, c'est le cas, en fait. Enfin, voilà, à Seis, il y a une équipe qui est appelée l'équipe de la mort, quoi. Voilà. C'était le cas aussi à Saint-Martin-de-Ré, en fait, où à l'époque, le directeur de l'administration de l'établissement, en fait, avait même rendu public un témoignage en disant moi, en fait, je ne peux pas gérer les gens que j'ai sous mes ordres et tout. Et donc, en fait, c'est un fonctionnement qui leur convient très bien. C'est-à-dire que le directeur de l'établissement, là, il fait un signalement au proc parce qu'il est bien obligé, parce que sinon c'est lui qui va se retrouver pénalement responsable parce que là maintenant il y a les preuves, quoi. Mais en fait, il accepte ce fonctionnement-là et voilà, et il accepte d'être soit à la bonne des syndicats de matons, et en tout cas il tolère tout ça, quoi. Et donc ça, c'est quand même vraiment assez flippant, en fait, de voir, pareil, on le découvre pas, mais en fait, quand c'est dit de manière si explicite dans ces termes, voilà, mais qu'en fait, ça, c'est toujours ce que disent, en fait, les prisonniers régulièrement, et en fait, je veux dire, il suffit d'ouvrir un numéro de l'envolée pour voir, en fait, ce que dit la CGLPL. Voilà, après... Encore une fois, et c'est ce que tu disais, Rose, la visite, ils la font en mars, quoi. Et le bail, il sort en juin, quoi. Et notamment, ils disent dans le rapport que les prisonniers ont particulièrement peur de prendre la parole. Et donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 mois, voilà. Et comment ça s'est passé pour les gens à l'intérieur? C'est-à-dire qu'ils ont vu, près de la moitié de la population, voilà. Donc ils disent qu'il y a eu un cadenas qui aurait été mis sur voilà. On comprend pas très bien. Est-ce que c'est le directeur qui l'a foutu? Est-ce que c'est les contrôleurs et tout?
Oui, puis comme si le cadenas, ça allait régler la violence des matons, quoi. Enfin, ça allait arrêter la violence des matons. C'est aussi tout ça. Enfin, c'est que les gens ont peur de parler parce qu'il y a aussi une équipe de... C'est ce que disait Louise, il y a une équipe de matons qui font la loi, donc c'est normal que les gens ils ont peur de parler. Et puis bon, quand tu vois ce qu'ils foutent de ce rapport, je pense qu'on va parler après des recours et de comment la justice aussi, après, elle continue dans la même veine que notre cher ministre de la Justice, en fait. Et ça donne pas très très envie de parler, en vrai.
Non, et puis Alors voilà, je me souviens plus c'est quand, mais il y a une petite dizaine d'années, tout ça, il y a eu un délit qui a été créé d'obstruction au travail de la CGLPL et tout ça, c'est un truc qui a jamais été appliqué, voilà, et ça c'est voilà, mais en fait les prisonniers ils ont écrit régulièrement, voilà, et surtout au début, il faudrait reprendre les numéros de l'envolée de l'époque. Mais quand l'institution elle a été créée, il y a beaucoup de prisonniers qui se sont dit « Bon, ce truc existe et tout ça, vas-y, on va prendre la parole et tout ça. » Et en fait, qui après derrière, se sont pris une répression de malade et tout. Maintenant, ça se sait à l'intérieur de la détention que quand tu écris à la CGLPL, tu prends un risque. Et voilà. Et donc la question aussi qui se pose, c'est ok, il y a un cadenas qui a été mis à un endroit. Quoi du reste, voilà. Et ces délais de publication qui sont un peu, enfin qui sont complètement hallucinants, quoi. Et à ça, c'est ajouté aussi des recours de baveux.
Oui, du coup, il y a des recours qui ont été déposés après ça. Donc il y a l'OIP, aussi la 3D, qui est une asso de défense des droits des détenus, enfin, ce sont des avocats, la Ligue des droits de l'homme et d'autres, le Conseil national des barreaux, enfin bref, on s'en fout un peu de... Mais bon, bref, pas mal d'asso, quoi, et de... Enfin, ouais, collectif. Et du coup, ils ont saisi le tribunal administratif de Pau pour en gros... qu'il y ait des mesures qui soient mises en place pour avoir des conditions dignes de détention et justement que ces conditions indignes de détention prennent fin. Et en gros, le recours, le juge administratif a décidé que, en gros, le seul problème à Tarbes, c'était qu'il fallait mettre des cloisons dans les cellules pour les douches.
Pour les chiottes.
Pour les chiottes, pardon. Oui, pour les douches, pardon. Et du coup,
Voilà, je veux dire que c'est encore en cours ce truc-là, parce que du coup, là, ce groupe d'assaut-là, comme le tribunal administratif a globalement tout refusé, y compris une demande de suspension des admissions à la maison d'arrêt, parce que, à cause de tout ce qu'on a décrit, donc maintenant ils font recours au Conseil d'État, et donc ça, on ne sait pas encore le résultat de ça. Après, il y avait en fait des prisonniers qui, malgré le contexte qu'on a décrit, ont décidé de faire des recours déjà en 2023 et 2024, et c'est pareil, qui globalement se sont fait têche, puisqu'il y a il y a eu deux premiers recours, je crois, qui ont été faits pour des questions de conditions de détention, donc moisissure, cafard, etc. Et en fait, comme la tôle a demandé l'intervention d'une entreprise pour vaguement nettoyer à la javel des traces, leur requête a été rejetée. Et sur l'autre cours, ce qui a été dit globalement par le tribunal, c'est que l'administration pénitentiaire n'était pas responsable de ce qui se passait, et du coup, ce n'était pas des conditions de détention indignes, quoi.
Ça, en fait, c'est tous les trucs qui ont été ouverts, en fait, parce que ça fait plusieurs fois que la Cour européenne des droits de l'homme condamne l'État français pour l'état de ses prisons. Et au bout d'un moment, à force de condamner, ils ont dit « vous devez changer un truc dans votre droit pour faire en sorte qu'il puisse y avoir... Enfin, que ça n'arrive pas jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme à chaque fois, en fait. Parce qu'en fait, ça mettait 10 ans et les prisonniers, parfois, étaient sortis. Souvent, en fait, étaient sortis et c'était seulement à ce moment-là. Et donc, ils disaient, il faut que vous mettiez en place. Et donc, ça a été à un moment considéré comme un peu une victoire par les personnes qui font du droit pénitentiaire et tout ça. Sauf que après, derrière, la manière dont ça a été mis dans le droit... Ça a été mis de manière très très fourbe de la part c'était Dupond-Moretti déjà qui était là à l'époque, qui disait vous avez le droit de faire un recours, mais ce qu'on peut faire, ça va être de vous transférer loin de vos proches et tout ça, si les conditions. Et l'autre truc, c'est que si on vous signale qu'on est en train d'essayer de faire des travaux ou tout ça, votre cours, il tombe à l'eau, quoi, en gros. Donc là, c'est bien ça qui s'est passé. Et donc là, en fait, on retombe exactement dans les mêmes problèmes. Donc là, il y a quand même ce truc de dire faut que vous mettiez un muret pour les chiottes. Voilà, comme si, en fait, l'insalubrité, c'était que les chiottes. Il n'y a rien de plus humiliant que de devoir chier devant des gens. Il n'y a pas de question là-dessus. Mais en fait, il y a vraiment bien d'autres choses qui sont décrites dans le rapport et tout. Et surtout, en fait, il y a le juge, le tribunal administratif, qui continue, en fait, à être... Ces recours-là, il y en a vraiment de plus en plus. Il y en a eu un à Orléans cet été aussi et tout ça. Ils n'arrêtent pas, l'OIP, des avocats et tout ça, en font régulièrement. Et à chaque fois, en fait, le tribunal administratif, le seul truc qui fait, c'est de dire non, le référé. Donc le référé, c'est le truc de gérer, de juger en urgence. Et donc à chaque fois, ça va mettre 2-3 ans à être jugé. Et c'est pendant ce temps-là, en fait, ça continue. Et donc, c'est toujours ce même truc de dire, on va faire des travaux et ça ira bien et tout. Et on voit bien aussi le truc super super fourbe des juges administratifs aussi parmi leurs arguments, c'est de dire c'est pas de la responsabilité de l'administration pénitentiaire le nombre de personnes qui rentrent à l'intérieur de la détention, parce que ça c'est de la faute des juges. Donc on peut rien faire, quoi. Alors qu'en fait, ce qui est demandé, c'est de prendre une mesure soit de stop écrou, soit de mettre en place un certain nombre de trucs qui sont des aménagements de peine pour les gens qui doivent, ceux qui doivent sortir le plus rapidement, pour qu'ils restent 2 semaines. Si tu rajoutes quelqu'un, tu dois faire sortir la personne et tout. Donc voilà.
Mais justement, dans le recours, c'est un truc que le tribunal a totalement rejeté, ce truc de la mesure de stop écrou. C'était un truc qui était, c'était un peu les principales demandes, la principale demande en tout cas. Et du coup, ils ont refusé totalement qu'il y ait une mesure de suspension provisoire des admissions à la maison d'arrêt de Tarbes, quoi.
Et à Orléans et un peu partout, quoi.
Je vais juste rajouter 2-3 trucs, cette histoire de pouvoir des matons à l'intérieur, parce qu'en fait, dans ce rapport, c'est pas toujours dit explicitement à chaque fois qu'ils donnent des éléments, parce qu'ils sont plus sur un truc de dire, ça déroge à la règle normale de droit. Alors qu'en fait, c'est un faisceau de trucs qui nous montrent comment il fonctionne le pouvoir des matons à l'intérieur. Et donc là-dessus, il y a plusieurs trucs. Il y a... Donc la CGL remarque qu'en fait, il y a des secteurs qui ne sont pas couverts par la vidéosurveillance et que même quand il y a des vidéos, elles ne sont pas utilisées en commission de discipline, même quand des prisonniers demandent à ce qu'elles soient utilisées, c'est jamais le cas. Et le rapport précise qu'en fait, ça, c'est le cas même en cas de mise au mitard par l'équipe qui est régulièrement mise en cause. Et en fait, ça montre, par exemple, juste cette information-là, elle montre à quel point c'est absurde que Dupond-Moretti se focalise que sur les faits du 2 mars pour lesquels la vidéo est sortie, parce que en lisant ça, en fait, on sait que ça s'est passé 1000 fois et que de toute façon, les vidéos n'ont pas été sorties en commission disciplinaire. Et un autre truc, c'est que bah, globalement, c'est ce qu'on dit toujours, que la tôle isole et qu'elle t'empêche en fait, de parler à l'extérieur de ce qui t'arrive et tout. Là, dans cette tôle, ça a l'air particulièrement intense, puisqu'apparemment, il n'y a aucune boîte aux lettres en détention. Donc je ne sais pas ce que ça implique exactement, ça veut dire que tu dois toujours passer par des matons ou quoi, mais que de toute façon, les prisonniers racontent qu'il n'y a pas de réponse à leur courrier, qu'ils n'arrivent jamais à leur destinataire et que leurs requêtes ne sont pas du tout tracées. Donc en fait, c'est vraiment bloqué à la... Bah, à la source même de ce qui pourrait sortir, en fait, y compris à l'intérieur de la tôle, quoi. C'est même pas une question de, en soi, sortir à l'extérieur ou envoyer au proc ou quoi. Et sur cette histoire d'interphone, là, dont on parlait, je vais quand même, enfin, c'est quand même un truc un peu de ouf qu'il n'y ait pas de système d'interphonie. Et en fait, un truc qu'on raconte souvent à l'antenne, c'est qu'en fait, déjà, c'est hyper dangereux, parce que t'appelles à l'interphone aussi quand t'as un problème de santé grave ou tout, qu'il y a des gens, en fait, qui, enfin, il y a des prisonniers qui sont morts juste parce que personne venait et qu'ils avaient un grave problème médical. Donc là, ils n'ont pas d'interphone, ils n'ont pas le droit de taper à la porte, et ils doivent actionner un espèce d'interrupteur qui allume un voyant. Et donc, apparemment, les prisonniers racontent au contrôleur que, les voyants sont allumés, ça provoque aucune réaction de la part des matons, et qu'apparemment il y a aussi juste des matons qui éteignent les voyants sans ouvrir la cellule. Donc,
dans mes souvenirs, le contrôleur, ils disent même qu'eux, ils ont vu ça.
Oui, ils ont constaté eux-mêmes. Ouais.
C'est-à-dire que les types, non mais c'est quand même pour dire le bail du truc, c'est qu'en fait il y a les gens qui viennent les contrôler, mais en fait déjà ils n'ont aucun pouvoir, ils ont aucun pouvoir de sur eux quoi. Et en plus, devant eux, ils font... voilà. Et donc, c'est hallucinant, quoi. D'habitude, en fait, le contrôleur, il raconte quand même assez généralement que quand il débarque, d'un coup d'un seul, la prison, elle sent la javel, tu vois. Les gens, ils ont nettoyé, tout ça. Là, ils se font même plus chier, quoi. Ça dit aussi de ce qui comment ils voient le contrôleur. Ils s'en battent les yeux. Et ils savent... Pardon, c'est pas bien de parler comme ça. mais ils s'en foutent complet. Et voilà. Et ils se sentent en toute puissance, quoi. Et sinon, moi, il y avait un autre dernier point qu'il y avait dans ce rapport, et en tout cas qui fait écho, en fait, dans les lettres et tout ça, c'est que les prisonniers, ils ont faim. Ouais. Et en fait, dans une des lettres aussi, tout à l'heure, il y a, je ne sais plus si c'était Blanche qui le disait, ou en tout cas, dans mes souvenirs, il y a quelqu'un qui l'a dit là, dans une lettre aussi, et voilà. Et on ne va pas être paro, et tout ça, et tout. Mais dans mes souvenirs, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant... Enfin voilà, en tout cas, là, ça fait quand même 2-3 fois qu'on voit ce truc-là. On sait qu'ils essayent de faire des économies partout. Voilà. Et donc, je ne sais pas ça serait, si à l'intérieur, en fait, vous avez l'impression qu'en fait, les portions, elles diminuent et tout. N'hésitez pas à nous dire, parce qu'en fait, ça se trouve, en fait, ils ont changé un peu les contrats juste pour pouvoir économiser un peu de thunes. Et puis voilà, quoi, ils foutent 5-10 grammes de viande en moins ou ce genre de truc. Et bien sûr qu'ils font des économies là-dessus. Enfin, hein, ça, c'est une évidence. Enfin, en tout cas, qu'ils peuvent le faire. Voilà. Et donc, vu que s'ils ont le même budget bouffe pour plus de prisonniers, bah, en fait, de fait, pour chacun, enfin voilà. Donc, enfin voilà, je sais pas pour les gens qui peuvent nous entendre et tout ça, si vous avez un peu cette impression là et tout, bah, n'hésitez pas à le dire, parce qu'en fait, ça fait partie quand même des trucs qui sont hyper importants, quoi.
Que ça rejoint un peu la question de la thune, parce qu'en fait un truc qu'on a déjà dit aussi et qui est bien expliqué dans le bouquin dont on a déjà parlé, qui s'appelle Un peu de bon sens que diable, en fait si t'as pas les moyens de cantiner, bah tu bouffes pas assez, quoi. Et que au-delà des carences et tout, enfin voilà, que genre de toute façon la bouffe elle est dégueulasse et qu'elle te permet pas d'être en bonne santé, bah ceux qui peuvent pas cantiner, bah voilà, juste ils ont encore plus faim que les autres, quoi.
On va passer un petit coup de musique.
We'll ça laisse de déco comme Gareth. C'est chelou si tout est carré. Elle est pas finie la perte des amis. C'est tant pis, maman. J'insulte des mères, mais devant elle, je reste poli. Derrière un fer peut se cacher ma folie. Beaucoup moins de tueurs que de paroles en l'air. Un homme à terre maintenant, ça réfléchit un minimum. Frère, j'ai plus qu'un minimum. Je vais pas mourir sans minimum. Il faut qu'on laisse un héritage. J'ai rien à laisser comme héritage, j'ai que le sac de frappe à l'étage. Trop de temps perdu, jeunesse gâche. J'ai cherché que de l'oseille à cache. Et j't'ai vu rôder près de la cache. J'ai tout perçu de l'encamitage. Tout sur moi comme kamikaze. Trop le gueule, j'fais le mec amical. La faux chope, le radical. La street, on l'aime, on veut la lâcher. Zéro colis, pas vu commis. Après le ch'tard, y'a le mitard qui démolit. Un putain de plagui, pas la condi. J'ai grandi, je vois trop d'anciens qui bougent pas, qui peuvent pas.
Vous êtes de retour à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur Fréquence Paris Pluriel et en diffusion un peu partout en France. Pour rappel, le numéro de téléphone pour nous appeler tout au long de la semaine, le 07 53 10 31 95. Et si vous voulez, nous appeler en direct, c'est le 01 40 05 06 10. Pour nous écrire, c'est l'envolée-fpp 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris. Vous pouvez nous écrire un mail à contact@l'envolée.net et les réseaux sociaux Insta, Twitter et Facebook. Donc, on voulait vous parler des Micas, ce qui n'est pas une nouvelle glace qui vient de sortir. Voilà, on m'avait demandé de trouver une blague, c'est assez pathétique, on peut le dire.
Ça passe. Pour resituer un peu les Micas, du coup, pour que tout le monde... Parce que ça paraît un peu conceptuel, dit comme ça. Moi, j'avoue, je... Voilà, en gros, c'est un dispositif de droit administratif qui est issu de l'état d'urgence de 2015 et qui a été mis dans la loi en 2017, dans la loi qui dite de sécurité intérieure et de lutte contre le terrorisme, la loi SILT. Et du coup, en gros, les Micas, c'est une assignation à résidence qui peut aller jusqu'à 3 mois et qui peut être renouvelable aussi et qui peut aussi être accompagnée parce que de perquisitions administratives et d'une obligation de pointage quotidien au Comico. Et pour avoir une MICAS, il faut donc avoir un comportement particulier. Et ce comportement particulier, donc il faut être bien sûr une menace à l'ordre public ou adhérer à des thèses qui incite à la commission d'actes terroristes ou l'apologie d'actes terroristes. Voilà. Et ça, ces deux motifs peuvent être soit... tu peux avoir une micas pour un motif ou pour les deux ou pour l'autre. Enfin, voilà, ça peut... Des fois, ils s'arrangent un peu comme ils veulent sur ça. Et donc là, un peu... Une sorte d'actualité de cet été, c'est que en gros, Darmanin a annoncé avoir mis 559 MICAS pendant la durée des Jeux Olympiques et même avant les Jeux Olympiques, pendant l'arrivée de l'arrivée de la flamme à Marseille et jusqu'à donc maintenant. Et donc c'est il en a mis donc 549.
Donc pour bien préciser, en fait, ces bails-là, en fait, ils étaient, c'était un juge à la base qui devait le faire. En fait, on n'est pas naïf sur la séparation des pouvoirs et tout ça, et on a quand même beaucoup pour habitude de rappeler qu'en fait police justice quand même fonctionne main dans la main et que ils sont collègues, mais ils sont créés quand même de 3 petites excuses de fonctionnement et tout ça. Là, ce qu'a permis l'état d'urgence puis après les différentes lois que tu rappelais, la Rose, c'est que ces décisions, elles sont prises par le ministre ou les préfets ou autres, quoi, et il y a que un regard a posteriori
qui va pouvoir y avoir par les juges en disant « Ah ouais, vous avez abusé, vous avez trop privé les gens de leur liberté ou quoi. » Et donc, bah, c'est le... C'est, enfin, déjà que de l'arbitraire, il y en avait déjà pas mal avec les juges. Là, en fait, on est encore à un degré au-dessus, quoi, parce que, enfin, on sait que l'État a pas pour habitude de respecter les propres règles qui s'assignent, quoi. Mais là, en fait, ils y vont à tire-larigot, quoi. Et c'est ce qui s'est passé pendant les JO avec des chiffres qui sont démesurés, quoi.
Oui, et puis c'est la généralisation de cette mesure qui était de base une mesure qu'ils ont un peu foutue comme ça dans l'état d'urgence, et après hop ils l'ont mis dans la loi, et après hop boum, bah tout d'un coup il y en a 549 en 3 mois. C'est quand même ouf. Et en plus, enfin, c'est pas que ça, c'est aussi 848 perquisitions, 92 expulsions du territoire français, enfin ça qui continue comme ils ont bien l'habitude de le faire. Mais les Jeux Olympiques ont de toute façon amplifié totalement ça. Il y a eu aussi 20 déchéances de nationalité, enfin c'est tout ça qui est en train de se passer. Et en fait c'est toutes ces spécificités qu'on nous vend tout le temps du droit terroriste qui en fait rentrent dans le droit commun complètement. Et c'est ça qui est en train de se passer là pendant les JO et qui sont en train de nous faire avaler la pilule de manière très sympa.
Bah, puis c'est un peu hallucinant parce que dans le journal facho du JDD là, Darmanin se félicitait en fait de comment ils ont mis en place tout ça, quoi. Et il le disait de manière extrêmement claire sur le fait qu'en fait ils allaient pas respecter l'état de droit et qu'ils allaient pousser l'état de droit au plus loin possible. Voilà. Et donc en fait, ça a vraiment été leur objectif, quoi. Et ils le disent. On est donc, je crois que le terme qui est employé dans l'article, c'est de parler de tordre le bras à la justice ou un truc comme ça. Le maximum avec ce qui sont déjà des lois les plus liberticides qu'on a eues depuis la Seconde Guerre mondiale, quoi. Donc déjà qu'il y a ces lois hyper liberticides, et en plus ils sont allés plus loin, et ils ont poussé le plus loin possible qu'ils pouvaient, et ils en sont fiers, et ils le revendiquent, et tout, quoi. Et donc ils ont mis en place cette stratégie, avec une stratégie qui a été aussi mise en amont, d'aller prévenir les juges d'application des peines. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont dit, on va défoncer tout le monde. On va mettre des miquets à tout le monde. Il risque d'y avoir quelques recours. Donc il va y avoir une surcharge de travail, donc on vous avertit à l'avance, quoi. Et donc là on voit bien que tout le bail de la séparation soi-disant des pouvoirs et tout ça, en fait elle est que dalle, quoi. Et donc ce qui a été vendu à l'époque comme au moment de faire voter ces lois, c'est de dire ouais mais vous inquiétez pas, de toute façon le juge administratif il viendra, et le juge d'application et le juge de liberté et de la détention il viendra checker a posteriori, donc en fait il n'y a pas trop de problème. Et sauf qu'en fait, bah les gars, ils vont les prévenir en amont en leur disant « Ouais, ça risque de se passer comme ça, suivez-nous, quoi. » Et de fait, c'est ce qui s'est passé, parce que ça a suivi. Il y a eu très peu de contestations. Enfin, on ne sait pas combien il y a eu de contestations, mais en tout cas, il y a eu très peu de trucs qui ont été déboutés.
Et puis aussi, ils ont lâché leur chien. C'est-à-dire que leur chien étant les flics. C'est-à-dire qu'en fait, c'était aussi... Non mais ce genre de mesures, c'est juste aussi, ça se base sur des notes blanches qui sont, enfin faut rappeler ce que c'est les notes blanches, c'est genre limite des petits papiers que les keufs ils laissent au fond de leur bureau, et en fait on sait pas qui met la note, on sait pas d'où ça vient, on sait pas, enfin il y a une note blanche avec ton nom, prénom, et d'un coup on te dit bah voilà, t'es assigné à résidence parce que t'as une note blanche, parce que, enfin on justifie même pas, mais en tout cas t'as pas de... Et ça se base, et ils le disent, et et ils l'assument totalement. Ça se base sur des renseignements qui sont des renseignements et sans condamnation. Et ça, ils en sont très fiers. Ils le disent. En fait, on est très fiers de mettre des micas à des gens qui n'ont jamais été condamnés pour rien et sur des renseignements des flics. Et en plus de ça, quand je dis ils ont lâché leur chien, c'est pas que sur les notes blanches, c'est aussi qu'il y a pas mal de gens qui ont eu des micas et qui ont vécu un harcèlement policier énorme ensuite après, c'est-à-dire qui avaient des filatures et qui se sont fait choper. En non-respect de leur mica, mais c'est des trucs hallucinants. C'est, tu te rends chez ton avocat et en fait, tu chopes devant la porte de ton avocat. Et aussi, t'es en train de faire tes courses et t'es à l'intersection d'une région où t'as pas le droit d'aller. Il y a une région où t'as le droit d'y aller, une région où t'as pas le droit d'y aller. Et ils te chopent là au moment où t'es à 2 pas de la région. Et en fait, il y a des gens... y a des gens qui ont pris du ferme, une personne qui a pris 12 mois ferme, un autre 5 mois ferme. Enfin voilà, et en fait, c'était aussi ça. C'est aussi, on va vous suivre et on va vous emmener en tôle parce que... Parce que voilà, pour, c'est du harcèlement policier de base, quoi.
Et ils le disent aussi que bien souvent, les personnes qu'ils ont déjà foutues dans des petites cases sont aussi potentiellement des délinquants. Et donc, ils sont aussi allés rechercher tous les actes possibles qui pouvaient être délictuels et quoi, pour pouvoir condamner très très vite. L'autre chose aussi qu'ils racontent, c'est qu'ils ont bien géré la temporalité d'à quel moment ils foutaient ces décisions. C'est-à-dire que, on le sait, en fait, faire des recours, là, on le voyait d'ailleurs avec à l'intérieur des tôles et tout ça, en fait, faire les recours, ça met du temps. Déjà, il y a le temps de faire le papelard par ton baveux et tout. Et en plus, après, derrière, il y a le temps que la justice, elle se prononce. Et donc là, en fait, ils ont vraiment fait exprès de mettre des recours, de mettre les décisions pile poil à un moment où ça faisait qu'en fait, à la fin des Jeux Olympiques, le juge n'allait pas pouvoir se prononcer avant. Et donc, à ce moment-là, ils étaient contents parce que pendant les Jeux Olympiques, la personne resterait soit enfermée. C'était le cas pour des personnes en centre de rétention administrative, notamment à Nice, où on a foutu la personne en centre de rétention administrative alors qu'elle ne peut pas être expulsée. Et donc, on sait que c'est un motif illégal, quoi. Et donc, cette personne, elle a été enfermée. Et puis, en fait, elle a été libérée à la fin des Jeux Olympiques. Et donc, ils ont eu... Donc, voilà. Donc, c'est vraiment tout ce truc-là où ils ont poussé au plus loin. Et ça a été une vraie stratégie qui est affirmée, officialisée dans la presse des fachos, quoi.
Oui, il faut savoir que ces mesures-là, elles ont aussi... je ne sais pas le nombre de lycéens que ça a touché. Je crois que, de ce que j'ai vu, j'ai l'impression que c'est une dizaine. Mais Mais en tout cas, ça a touché aussi des lycéens, et là, qui sont encore sous cette foutue mica-là, et qui, en fait, sont à faire des recours pour pouvoir aller à l'école, et ne pas avoir à pointer au comico. Et c'est des trucs délirants où on leur dit « Mais c'est à 19h votre pointage, vous avez le temps de vous rendre à l'école, et puis après de revenir pointer. Mais on est où ?» Enfin, et ça sur des bases de, bien sûr, des trucs TikTok de merde, voilà, ça a touché quand même pas mal de lycéens aussi, et c'est juste délirant, quoi.
Et faut pas non plus minimiser les impacts qu'il va y avoir après. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, sur toute la dernière loi immigration, là, il y avait tout un trouble sur la question de trouble à l'ordre public ou pas. Et donc, quand tu t'es pris une mica dans la gueule, après, derrière, bien sûr que ça va être utilisé par le ministère de l'Intérieur et tout ça pour refuser... des renouvellements de séjour ou autres. Et donc, à ce moment-là, ça va aussi avoir des conséquences à plus long terme. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des conséquences immédiates où il y avait un harcèlement policier. Ils emploient le terme dans l'article d'harcèlement d'Armanin, je ne sais plus exactement, harcèlement.
Acharnement,
voilà, il emploie lui. Donc ça, ils le disent très clairement. Donc ce qui fait que nécessairement, ils vont trouver des gens qui ne vont pas respecter explicitement leur mica. On peut penser à Kamel Daoudi, la fois où il a dit « Là, en fait, je fais ma bouffe dans mon asso et tout ça, et je reviens chez moi avec 2h30, en fait, avec 2 heures de retard, il s'est retrouvé à faire plusieurs mois de tôle après derrière. Donc il y a eu ce premier truc où il y a eu des effets immédiats d'enfermement et tout ça, et après derrière ça va te suivre tout le temps, quoi. Et voilà, donc ça nous semblait important d'en parler et tout. On arrive à la fin de l'émission, on voulait quand même annoncer des événements qui vont avoir lieu à Lyon en hommage à Idir.
Ouais, du coup, pour rappel, Idir, il est mort le 9 septembre 2020 au mitard de la maison d'arrêt de Lyon-Corba dans des circonstances vraiment troubles. Et depuis sa mort, sa mère a lancé une bagarre de ouf pour obtenir la vérité sur sa mort et pour faire parler en fait de ce qui se passe dans les mitards et tout. Donc ce week-end, vu qu'on approche en fait de la date d'anniversaire de la mort d'Idir qui sera lundi, il y a plusieurs événements qui se déroulent à Lyon. Donc demain, le 7 septembre, à partir de 18h, à l'annexe de l'ECG, donc c'est 27 rue Salomon Reynard, je ne sais pas comment on prononce ça, dans le 7e arrondissement de Lyon, à partir de 18h, il y a une soirée de soutien au collectif IDIR, Espoir et Solidarité, où il y aura des projections, des prises de parole, de la musique, un couscous, un infokiosque. Et le lendemain, le dimanche 8 septembre, c'est rendez-vous Place Bellecour à 14h, aux côtés de la maman d'IDIR, Najette, qui organise une marche à la mémoire de son fils. Donc si vous nous entendez dans les environs de Lyon et tout, c'est super important d'y aller pour soutenir la lutte de Najette et pour rendre hommage à Idir.
Des petits coucous ?
Oui, il y avait des petits coucous à Zouzou, à Aurélie, à Blanche, à l'infâme, à Redouane, à Kémy, à Sako, à tous les prisonniers kanaks qui sont encore incarcérés et à tous les prisonniers et toutes les prisonnières de France et leurs proches.
Force, courage et détermination et...
Il n'y a pas d'arrangement.
Rediffusion mercredi matin à 8h30.
Ah!